France Musique. Musicopolis. Boccherini, 1787. Madrid. Clementina, la zarzuela de Boccherini, donnée le 3 janvier 1787 chez la comtesse duchesse douairière de Benavente à Madrid, nous montre une véritable galerie de portraits et nous fait en quelque sorte entrer dans une maison madrilène avec ses us et coutumes. En présence, deux jeunes filles, l'une douce et soumise, l'autre moderne, qui veut vivre les plaisirs de la jeunesse comme une maja, une femme à la mode. Elles sont toujours chaperonnées par leur gouvernante et servies par leur soubrette, qui n'hésite pas à leur donner des conseils amoureux. Conseils dispensés également par le maître de musique Don Lazzaro. Le maître de musique Don Lazzaro répète à l'envi qu'il est ponctuel et discret, qu'il sait pourquoi il va et vient, pourquoi il s'arrête, qui il est, qui il a été et qui il sera. Il affirme sa place dans la société de l'Ancien Régime. Il fait partie de la domesticité de la maison et il va épouser la soubrette Cristetta à la fin de la pièce. Mais alors, on peut se poser la question, quel rapport entre Don Lazzaro et Boccherini ? Est-ce que le statut de Boccherini dans la maison de la comtesse duchesse est le même que celui de Don Lazzaro dans la maison de Clementina ? Le statut social de Boccherini est certainement plus élevé que celui de Don Lazzaro, le maître de musique de sa zarzuela. En tant que compositeur et chef d'orchestre, il jouit d'un bien plus grand prestige. Mais justement, comment en est-il arrivé là, lui le fils d'un obscur contrebassiste de la ville toscane de Luc ? C'est d'abord à ses dons de violoncelliste que Luigi Boccherini doit sa carrière. C'est un enfant prodige qui surprend tout le monde par ses grandes capacités musicales et sa virtuosité époustouflante. Le père de Boccherini s'occupe beaucoup de lui. Après lui avoir enseigné les bases de son instrument, il le confie à divers professeurs, dans sa ville natale de Lucques, puis à Rome. Une fois l'apprentissage de l'adolescent terminé, son père l'emmène à Vienne pour se faire connaître. Ils jouent tous les deux au Théâtre Impérial. Il rencontre Gluck, qui trouve le jeune homme très intéressant. Luigi se fait connaître comme virtuose. À 17 ans, il publie ses premières œuvres, une série de trios à cordes. Il voyage, il va et vient entre Vienne et Lucques, mais c'est chez lui qu'il veut s'installer. Lorsqu'enfin la municipalité propose de l'engager, c'est à des conditions assez désavantageuses, en termes de salaire et en termes de temps de travail. Par exemple, il n'a pas le droit de s'absenter plus d'un mois. Quand on connaît les conditions de transport à cette époque, on imagine bien qu'en un mois, il ne risque pas d'aller bien loin pour se faire entendre. Le travail de Boccherini à Lucques est très absorbant et l'intéresse. Mais un jeune musicien, créateur de surcroît, a besoin aussi de voyager, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Malgré son contrat, il réussit à passer quelque temps à Milan, où il fait la connaissance de Sam Martini, qu'on dit le père de la symphonie. Il a l'occasion de jouer en quatuor, une expérience nouvelle racontée par Giuseppe Cambini. « Dans ma jeunesse, écrit-il, j'ai vécu heureux pendant 6 mois à travailler avec tant de délices. 3 grands maîtres, Manfredi, le violoniste le plus parfait de toute l'Italie pour ce qui est de jouer en orchestre ou en quatuor, Nardini, si renommé pour la perfection de son jeu et sa virtuosité, et Boccherini, dont les mérites sont assez connus, me firent un honneur en m'acceptant chez eux comme altiste. »
Thank you.
1766, sur le conseil de son ami Filippo Manfredi et en sa compagnie, Boccherini quitte Luc et s'embarque pour un grand voyage afin de se faire connaître. Le nord de l'Italie, Gênes, le midi de la France, puis logiquement Paris, où ils arrivent au début de 1767. Époque glorieuse pour la capitale française, où tous les plus grands virtuoses européens se pressent pour faire publier leurs œuvres ou pour jouer au concert spirituel. Les deux amis vont dans les salons, où ils rencontrent l'élite des musiciens, compositeurs et instrumentistes, les violonistes Gavignès, Capron, le violoncelliste Jean-Pierre Duport et le chef d'orchestre Gossec. Scène émulation. Bien sûr, un moment important du séjour de Boccherini à Paris va être sa présentation au concert spirituel. Après avoir passé du temps dans les salons et entendu les grandes discussions sur les idées de l'avant-garde pré-révolutionnaire, il a décidé qu'il fallait chercher avant tout à émouvoir son public. Le Mercure de France d'avril 1768 relate que « Monsieur Boccherini, déjà connu par ses trios et quatuors, qui sont d'un grand effet », a exécuté en maître, sur le violoncelle, une sonate de sa composition. Après Paris, Boccherini et son ami Manfredi ont l'intention d'aller à Londres chercher la gloire. Mais d'abord, ils sont convaincus par l'ambassadeur d'Espagne de passer les Pyrénées et de pousser jusqu'à Madrid. Un long périple, si l'on en croit un voyageur anglais qui fait le même trajet. « Je crains que mon récit ne paraisse sec et aride, écrit-il, comme la route m'a semblé, rude et sauvage. Et cela même fera voir combien la nation espagnole est en arrière du reste de l'Europe pour les aisances et les facilités des voyages. Arrivant à Madrid, Boccherini et son ami Manfredi vont devoir se faire à d'autres mœurs, d'autres musiques, d'autres danses. Même si l'Espagne est bien dans le concert des nations, elle est suffisamment isolée pour avoir conservé beaucoup de traits nationaux particuliers dans tous les genres musicaux et pas seulement les danses. À Madrid, Boccherini essaye de trouver des employeurs ou des mécènes. Il a quelques lettres de recommandation et il fait la tournée des salons et des institutions qui pourraient lui offrir un poste ou au moins lui passer commande. Il découvre aussi les genres musicaux à la mode dans la capitale. Bien sûr, on y joue l'opéra italien, espéranto lyrique de l'époque, qui s'est exporté dans tous les pays d'Europe. Mais Boccherini peut surtout entendre ce qu'on n'entend nulle part ailleurs, des zarzuelas et des tonadillas.
Simón que iba borracho una noche, el chasco que le sucedió al ir a encerrar el coche.
Cuéntalo, cuenta que ya oímos soltando, bocas abiertas que ya oímos soltando, bocas abiertas.
Pasó por una botica y la luz de la ventana le pareció la cochera que ya abierta le esperaba. ¡Polinaria, atrás! ¡Ceja, cara, ceja! ¡Que el coche ha de entrar!
Si vierais qué risa con la vecina.
¡Oye, sí que vivo! ¡Después a parar!
¡Después a parar! ¡Le hartaron de manos y de caminar! ¡A dormir el lomo de un boquete!
Pendant les premiers temps de son séjour à Madrid, on peut dire que Boccherini galère un peu. Tous les postes de la chapelle royale de Charles III sont déjà occupés. Il adresse ses trios opus 6 au prince des Asturies, l'héritier du trône, mais il n'obtient qu'un remerciement poli. Grâce à son ami Manfredi, il peut participer en ville à quelques séances de musique de chambre, pendant le carême, où les théâtres sont fermés. Il compose aussi un concerto pour violoncelle pour ses académies. Enfin, il rencontre l'infant Don Luis, le frère du roi, à qui il dédie ses quatuors opus 8. Quelques temps plus tard, Don Luis le choisit comme violoncelliste de sa chambre et compositeur de musique avec l'autorisation de Charles III. Troisième mouvement Allegro du Quatuor opus 8, numéro 3 de Luigi Boccherini par le Quartetto Italiano. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Claude Niort pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.